se lever. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, Dieu vous bénisse. Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens ce soir, 1 Corinthiens 13. Ah, il me dit, il va prêcher sur l'amour. Un petit peu. 1 Corinthiens 13, 13, c'est une référence facile, donc c'est facile de se souvenir. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui dit, ces trois choses donc demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors là, je lisais dans une autre version, dans la version Esprit et Vie, et ils ont remis le mot charité, qui est un vieux mot pour dire amour. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Il y a une chose qui doit être clairement rétablie dans la pensée des chrétiens dans notre temps, parce qu'il y a un obstacle dans notre pensée, et il doit absolument être ôté, parce que vraiment, c'est un grand besoin. Il ne peut être ôté que par la connaissance. Si nous n'avons pas cette connaissance, cet obstacle, il demeure, et puis alors, il nous empêche d'entrer pleinement dans le rétablissement de toute chose. Cause une mauvaise compréhension. Cet obstacle que nous rencontrons pour comprendre qu'est-ce que c'est la vraie foi ou qu'est-ce que c'est de pratiquer la vraie foi, c'est que du fait de la chute, nous opposons toujours le naturel et le spirituel. Il faut faire sauter cet obstacle-là. Bon, il y a la chair et il y a l'esprit. Mais voici, en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ça veut dire quoi ? La chair se rattache à une certaine sorte d'énergie et l'esprit à une autre sorte d'énergie. Voilà, dans la pensée. Pour beaucoup, la foi, elle appartient au monde de l'esprit. C'est un don de Dieu. Beaucoup de gens disent, oh, j'aimerais beaucoup avoir la foi que vous avez. Donc, elle ne peut pas être mise en action à moins que Dieu donne une impulsion, vous comprenez ? Si c'est un don de Dieu. Ce n'est pas tout à fait faux que c'est un don de Dieu, mais ce n'est pas l'entière vérité non plus. On va développer ça ce soir et peut-être encore dimanche. Parce qu'il y a des textes sacrés sur lesquels on s'appuie toujours et on comprend, à cause de ces textes, on comprend mal. On croit qu'on doit prier pour avoir la foi ou pour avoir plus de foi, puis on se base sur des textes qui envoient ces pauvres disciples qui comprenaient tout de travers en général. Seigneur, augmente-nous la foi. Hein? On se base là-dessus. Alors on entend des gens qui prient la même chose, ça fait très spirituel, mais bon, on pense qu'on doit attendre, que c'est un don que Dieu va nous faire, on doit attendre. Hein? Nous devons utiliser la foi, nous devons l'utiliser que suivant la mesure que Dieu nous a accordé. Mais alors, quelle mesure il nous a accordé ? Comment on fait pour mesurer ? Vous voyez, c'est des tas de questions qui sont... Ça nous laisse dans une espèce de flou artistique. Moi, je déteste. J'aime bien comprendre les choses pour pouvoir aller de l'avant. Tous ces textes, mal compris, font beaucoup de dégâts. Les chrétiens s'imaginent, en général, que tant que la foi ne leur a pas été donnée ainsi, ils sont donc impuissants et qu'ils doivent rester inertes, ils ne doivent pas bouger, ils doivent rester immobiles, parce que voilà, il vaut mieux rester immobile que de faire des actes de foi et puis se tromper, etc., etc., et puis que ça ne soit pas juste. Alors, il y a un grave malentendu qui est à l'origine de ce point de vue stérilisant, parce que c'est stérilisant. Il faut commencer à se souvenir comment est-ce que Dieu nous a fait. Il a fait de nous des êtres vivants. C'est le mot âme, ça veut dire être vivant. Il nous a fait être vivants semblables comme à sa propre image, nous dit la Bible. C'est-à-dire avec tous les attributs d'une personne. Dieu est une personne et nous sommes à son image, nous sommes une personne. C'est-à-dire que nous sentons, nous désirons, nous pensons, nous voulons, nous parlons, nous agissons. Toutes ces formidables facultés se combinent ensemble pour constituer une personne. Nous sommes une personne. Mais, il y a un mais et ce n'est pas rien. C'est un énorme mais. Toutes ces facultés-là que je viens de vous citer, le problème, c'est qu'elles sont suisses. Elles sont neutres. C'est neutre. C'est-à-dire que ces facultés ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des matériaux bruts de notre nature. Ce sont des forces puissantes, c'est vrai. Et elles sont dirigées soit vers le bonheur, soit vers le malheur. Mais qu'est-ce qui dirige ces facultés qui sont neutres vers le bonheur? C'est notre esprit. Qu'est-ce qui dirige ces facultés qui sont neutres vers le malheur? C'est aussi notre esprit. Jésus, un jour, il disait à ses disciples, « Mais de quel esprit êtes-vous animés ?» Ils étaient en train de dire, « Oui, l'autre là-bas, il faut l'empêcher, il faut le massacrer. » De quel esprit vous êtes animés? Vous voyez, il faut comprendre ça clairement. Sinon, il y a un obstacle et puis alors on ne va pas loin. Aimer ou haïr, admirer ou mépriser, se vanter ou s'humilier, être en colère ou être calme, avoir peur ou avoir confiance, être sévère ou être aimable, chacune de ces choses, ça peut être bon ou mauvais. Dieu se met en colère. Il y a des bonnes colères. Ce sont des éléments que Dieu nous a donnés pour que nous soyons à son image, comme lui. Et par ces éléments, les hommes sont donc faits à l'image de Dieu. J'espère que c'est clair, maintenant vous avez compris. Par ces éléments, nous suivons notre propre voie dans ce monde. Et la question importante, c'est est-ce que vous marchez par l'esprit, selon l'esprit ou selon la chair? C'est tout ce qui est important à savoir. C'est toute la question. Tant que vous n'avez pas bien compris le caractère neutre de ces matériaux bruts qui font de vous ce que vous êtes, votre nature, une nature humaine, à l'image de Dieu, et quelle est la relation que ces éléments ont avec votre esprit qui les gouverne, vous n'avez pas la clé. Vous n'avez pas la clé pour avoir une vie chrétienne sage. Vous avez une vie chrétienne folle. Ça vous rappelle les vierges folles et les vierges sages. Il y a une connaissance qui est sainte, que vous devez acquérir, et ça ne vous tombera pas du ciel, il faut étudier. Par exemple, vous n'allez pas comprendre les bénéfices qu'on peut tirer des tentations. Une tentation, elle est là pas seulement pour être vaincue, mais elle est là pour être utilisée. Si je n'avais pas les tentations que j'ai, je n'aurais pas le caractère que j'ai et je ne pourrais pas être ce que je suis. N'ayant pas saisi comment utiliser vos tentations, vous aurez toujours de la peine à être délivré de la fausse condamnation. Le diable est toujours en train de vous condamner, de vous accuser. Or, il n'y a en Jésus-Christ aucune condamnation, n'est-ce pas vrai? Mais ce n'est pas seulement une phrase. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un tout. Vous aurez de la peine à résoudre la question de la sanctification. Beaucoup de chrétiens deviennent légalistes parce qu'ils veulent être sanctifiés. Alors on appelle ça, moi j'appelle ça la sanctification à l'huile de coude, ils font toutes sortes d'efforts et puis ils s'aperçoivent, c'est désespérant, mais c'est désespérant. Et puis alors, malheureusement, le pire c'est que vous n'arriverez plus à discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. C'est pourquoi on voit tellement de gens qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu, qui ont des prophéties à la noix de coco, excusez-moi l'expression, et l'esprit, la chair, tout ça c'est mélangé. Bon, on reviendra sur tous ces points, mais pour ce soir, je voudrais qu'on examine un seul point, la foi. La foi. Alors écoutez bien, parce que ça décoiffe un peu, c'est un peu spécial. La foi, c'est une faculté majeure dans l'être humain. La foi, on en est tous fondamentalement doués. Tous. Maintenant, La plus grande faculté, on vient de le lire, c'est
l'amour.
Alors, écoutez bien. Tout, absolument tout, attention, ça va vous choquer, hein. Tout, absolument tout est amour. Le problème, c'est que de plus en plus, l'amour est manifesté sous sa forme inverse, c'est-à-dire la haine. La Bible nous dit que l'amour, c'est le feu consumant qui est Dieu. Et nous, les hommes, les femmes aussi, nous sommes aussi amour, puisque créés à l'image de Dieu. Amour perverti ou amour purifié, mais amour. Il faut que ce soit amour. Ça ne peut être que l'amour. Il faut que ce soit l'amour du monde ou l'amour de Dieu. Mais il faut que ce soit l'amour. Vous voyez ? Qui règne dans nos cœurs. Il faut que ce soit l'amour du monde ou l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour. L'homme doit aimer, il ne peut pas faire autrement. Parce que l'homme est amour, il est créé à l'image de Dieu. L'homme est capable d'amour, même sans être racheté par le sang purificateur de Jésus. Vous avez plein de gens qui font des actes d'amour extraordinaires, vous avez plein de gens qui aiment d'une façon extraordinaire, sans connaître Jésus, oui ou non ? Oui, bien sûr, ben alors. L'homme, il aime depuis le moment où il respire. Mais voilà, quel est l'objet de son amour ? Quel est l'objet de son amour ? Ok, on revient à nos moutons. Ce qui est le plus important après l'amour, c'est la foi. L'amour, c'est la force motrice. Le désir, l'amour pur ou l'amour perverti, tout ça, ça maîtrise, ça invente, ça crée tout ce qui vient à se produire, à se faire sur cette terre. Mais qu'est-ce qui tient le gouvernail de l'humanité ? Qu'est-ce qui a toujours tenu ? Ce n'est pas la raison, c'est l'amour. Ce n'est pas la raison, c'est toujours l'amour. L'amour donne l'impulsion, mais c'est la foi qui agit. La foi est action. Et un homme ne peut agir que par la foi. Tout le monde, chrétien ou pas. La foi met à exécution toutes les incitations de l'amour. La foi agit par l'amour. Il faudra que vous y réfléchissiez, parce que c'est quand même assez choquant. Mais considérez un peu la place de l'amour et de la foi dans le comportement humain en général, et même en particulier. Tout ce que l'homme fait, tout ce que la femme fait, de l'acte le plus simple, le plus trivial, le plus bizarre, le plus sublime, tout ce que l'homme, la femme fait, l'amour est toujours le mobile, toujours le mobile. Et la foi, c'est le moyen de réalisation de cela. On mange ? Pourquoi on mange ? Parce qu'on aime manger. L'amour, le désir, ça nous pousse à manger. Mais comment mange-t-on et qu'est-ce qu'on mange ? Alors on voit un aliment, il est à la fois appétissant, il est à la fois nourrissant, alors on croit dans sa valeur, oui ou non ? On a la foi. Résultat, on le prend, on le met dans notre bouche, on le mâche, on l'avale et on le digère. Chacun de ces actes n'est rien d'autre qu'un acte de foi, mes frères et sœurs, c'est vrai. De la foi pure. Parce que bien souvent, c'est parce qu'on a appris dernièrement que là, dans notre région, on a l'eau la plus pourrie de France. Vous saviez ça ? Si, à un moment donné, notre foi est ébranlée, qu'est-ce qui se passe ? Si notre foi se transforme en son contraire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si nous croyons que c'est mauvais, pour nous, on va tout de suite cesser tous nos actes. C'est-à-dire, on ne va plus prendre cette nourriture, on ne va plus la mettre dans notre bouche, on ne va plus la mâcher, on ne va plus l'avaler, et donc on ne va plus la digérer. Toutes nos actions sont foi. Vous y réfléchirez. La foi, c'est la seule méthode naturelle et instituée par Dieu qui nous permettent d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pense, de ce qu'on aime, de ce qu'on entreprend, de ce qu'on désire obtenir, de ce que nous voulons. La foi, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné. Tout, absolument tout, est acte de foi. Respirer, c'est un acte de foi. S'asseoir sur une chaise, vous êtes assis sur une chaise, c'est un acte de foi. Vous n'êtes pas, quand vous avez vu la chaise, vous n'avez pas commencé à mesurer, à sous-peser, à regarder si vraiment tous les pieds tenaient. Tout. Vous êtes assis, c'est un acte de foi. Ramasser un truc par terre, c'est un acte de foi. Tout ça, c'est des actes de foi. Mais, parce qu'il y a un mais, seule la foi vivante est action et la foi morte ne produit rien, aucun effet. Mais elle est morte. Et dans les choses de l'esprit, mes frères et sœurs, c'est absolument pareil. C'est pourquoi je dis, il faut casser cet obstacle. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence entre le naturel et l'esprit. Je sais qu'il y en a qui se font passer pour des TTTS, ça veut dire très 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 spirituels, qui vont essayer de me contredire, mais ils auront bien de la peine. Ils vont dire, oui, mais toi, tu regardes les choses intellectuelles. Bon, ce n'est pas vrai, c'est pratique ce que je vous dis. Si votre foi n'est pas pratique, c'est qu'elle était impossible à mettre en action, donc ça veut dire qu'elle ne sert à rien du tout. Dans le domaine spirituel, nous avons toujours un motif pour exercer notre foi, c'est-à-dire pour agir. Mais il existe des façons plus ou moins avancées, plus ou moins précises, plus ou moins profondes pour pratiquer notre foi, pour agir. Qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible dit que la foi, elle est inhérente à l'homme. Mais encore faut-il comprendre qu'elle dit ça, parce que ce n'est pas écrit « la foi est inhérente à l'homme ». Ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit autrement. Il y a un code. Par exemple, écoutez ça, Jérémie 17, 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Psaume 146, 3. « Ne vous confiez pas aux grands. » Ça, c'est de la foi. 2 Timothée 6, 17. « Ne mettez pas votre espérance dans les richesses incertaines. » C'est de la foi. Mal dirigé, mais c'est de la foi. C'est clair ? Je pense que vous avez tous admis ce point-là. La foi, c'est une faculté naturelle de l'homme et elle vient juste après l'amour. Mais nous en avons tous. Alors, demander la foi à Dieu, c'est stupide. C'est stupide. La foi est un des éléments dont nous sommes tous constitués et on ne peut faire que de l'exercer dans un sens ou dans l'autre. C'est tout. C'est absolument tout. Mais prier pour l'avoir, c'est ridicule. Prier pour qu'elle augmente, c'est ridicule. Tu l'as fait, tu fais, tu agis ou tu n'agis pas, c'est tout. Alors, quel est le rapport entre la foi naturelle et la foi spirituelle? Parce que la foi naturelle, on peut dire, c'est poser son derrière sur une chaise, et la foi surnaturelle, c'est imposer les mains malades, par exemple. Hein? C'est des actes. Eh bien, mes frères et sœurs, j'appuie bien, je dis, quel est le rapport entre la foi naturelle et la foi spirituelle? J'appuie bien les mots. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Mais maintenant, on va prendre la Bible. On va prendre Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Parce que ceux qui connaissent bien la Bible vont m'opposer Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé par la foi. Les gens qui disent on est sauvé par la foi, c'est une hérésie. On n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce. Et cette grâce, on la prend par le moyen de la foi. La foi, c'est l'action de prendre cette grâce pour vous. Amen. C'est clair. On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est un cadeau. Mm-hmm. Voilà, on a osé prendre Éphésiens 2.8. Maintenant, on va prendre un autre texte. On va prendre 2 Pierre 1.1. Ça, il est plus compliqué. 2 Pierre 1.1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ah, là, Michel, tu te plantes, là. Tout ce que tu viens de dire, ça tombe à l'eau. Là, on dirait que certains n'ont pas reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ils n'ont pas reçu. N'est-ce pas? Ça a l'air d'être dit, ça. Hein? C'est dit, ça. C'est pas que ça a l'air, c'est dit. Alors, est-ce qu'on a la foi ou est-ce qu'on l'a pas? Est-ce qu'on la reçoit? Ce texte semble contredire tout ce que je viens de dire, mais en fait, il ne contredit pas du tout ce que je viens de dire. La foi, elle est effective, mes frères et sœurs, si l'objet qui est en face de vous est susceptible de provoquer votre foi. C'est tout. Il y a des choses qui provoquent mon envie de manger, et d'autres pas du tout. C'est pas vous, c'est pareil. Il y a des choses qui m'attirent, et d'autres pas du tout. C'est pareil pour vous. Eh bien, pour la foi, c'est la même chose. Jésus-Christ, notre Sauveur, stimule-t-il cette capacité de foi? La met-il dans le cœur de tous? Réponse, non. C'est là où est la réponse. Ils ne veulent pas le voir. Ben, qu'ils restent aveugles. Mais nous le voyons. Nous le voyons. Cela ne veut pas dire que les personnes sont incapables de foi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont privées de foi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas la foi. Elles ont la foi, mais elles ne la placent pas en Jésus, c'est tout. Pourquoi? Parce que le Père n'attire pas cette personne. Voilà pourquoi. Dieu ne l'attire pas, alors il ne peut pas avoir la foi. Il n'a pas reçu cette foi de prix. C'est en cela que notre foi a une valeur, un prix autre que celle des incroyants. C'est que Dieu y a mis quelque chose. J'ai un chien, il s'appelle Potter. Michou, qu'est-ce que tu peux présenter à notre chien qu'il ne va pas manger? Des pâtes. Moi, je sais une chose. Si mon chien, le dimanche, vient à table vers moi avec son air de mendiant pour me demander un bout de poulet ou quelque chose comme ça que j'ai dans mon assiette, c'est ce que je fais, je lui présente mon verre de vin, je suis sûr il se tire. C'est pas dans sa nature, il aime pas ça. Et il s'en va, il demande pas son reste, il s'en va. Pour dire ça autrement, la foi dans les Écritures, la foi, le fait de croire en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu et ce don n'a pas été accordé à tous. Voilà la vérité. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il ne faut pas enlever ce texte de la Bible. Il ne faut pas jouer aux enfants. Il faut commencer à être des adultes et voir les choses telles qu'elles sont. Jésus le dit, il y en a qui ne peuvent pas venir à moi parce que le Père ne les attire pas. Et c'est tout. Jean 10, 3. J'appelle par leur nom les brebis qui m'appartiennent. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oui, mais encore. Eh bien, ça veut dire qu'il appelle pas par leur nom les brebis qui ne lui appartiennent pas. Voilà, ben, il fallait le dire, je l'ai dit. Jean 10, 4. Ces brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les autres ne connaissent pas sa voix. Elles ne le suivent pas. Jean 10, 11, Jean 10, 15, je donne ma vie pour mes brebis. Ça veut bien dire qu'il y en a qui ne sont pas ses brebis. Jean 10, 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me suivent. Vous savez quelle a été la réaction des gens à l'époque quand ils ont entendu ça? C'est écrit dans les versets suivants. Il a un démon! Il est fou! Mais pourquoi est-ce que vous continuez à l'écouter? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'ils disent aujourd'hui de moi. Quand ils m'entendent dire ça, ils disent « Il est fou! Il a un démon! Mais pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Mais ne l'écoutez pas! C'est un fou! » Parce que ces choses-là sont terribles. Luc 8, 9, 10. À vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela ne leur est dit qu'en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient rien, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Non mais, au fou, au secours, le doux Jésus qui a de l'amour, qui a tant aimé le monde, il ne veut pas qu'ils comprennent. Non, il ne veut pas qu'ils comprennent. Pourquoi ? Il ne les veut pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les siens. Mais c'est horrible, Michel, j'ai jamais entendu une chose pareille. J'écoute plus ce que tu dis. Bon, ben, tu fais comme les gens du temps de Jésus, ils voulaient écouter. Ils sont taillés, ils sont barrés. Et puis voilà, puis Jésus n'a pas fait une crise de foi. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs ? Comme Pierre, dans sa deuxième épître, ce qu'on vient de lire là, je parle, moi, à des élus, à des gens qui ont été choisis par Dieu, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec moi, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire sa justice n'a rien à voir avec la mienne, avec la justice humaine. C'est autrement plus élevé et c'est autrement plus complexe et on n'a pas les tenants et les aboutissants pour pouvoir juger Dieu. Mais il n'en est pas moins vrai que la capacité de croire est innée en tous. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, innée en tous, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu dit, croyez. Il ne dit pas ça à tous. Il dit ça à ceux qui l'attirent. Mais il ne dit pas ça à tous. Ouais, de temps en temps, il dit, par exemple, à Caïn, il va lui dire, bon, surmonte le mal, tout ça. Voilà, ben, le pauvre. Vous voyez, le grand plan de Dieu, c'est un plan qui est spirituel, parce que Dieu est esprit, et il est le Père des esprits, il est le Père de notre esprit. Et qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ben, ça signifie que les choses de l'esprit doivent être, pour l'homme, aussi, elles doivent être naturelles et non pas surnaturelles. C'est quand on commence à croire que c'est surnaturel qu'on place notre foi ailleurs, que dans le Dieu des esprits, dans le grand Dieu Tout-Puissant, quand on commence à croire au surnaturel. Mais il n'y a rien de surnaturel pour Dieu. S'il n'y a rien de surnaturel pour Dieu, pourquoi ça serait surnaturel pour nous ? Pourquoi on met une montagne ? Tout à l'heure, avec Michaud, on était à faire les courses, et on est parti donc avec la vieille voiture qui n'a pas de... On ne peut pas écouter les CD, on peut écouter que les cassettes là-dedans, parce que c'est une vieille voiture pourrie. Et donc, j'ai toujours une vieille réserve de vieilles cassettes des années... Nous Mathusalem, du temps des dinosaures. Et puis là, j'en avais pris 3 ou 4, et puis j'ai mis la première qui me venait, je l'ai mis dans la boîte. Et vous savez sur qui on est tombé ? Sur les vampes. Sur les vampes. Alors, elle parlait de... Oui, ben, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Du naturel, du surnaturel. Oui, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça m'amuse de vous faire savoir que j'écoutais les ventes dans ma voiture. Oui, elles étaient à Lourdes. Voilà, elles étaient à Lourdes. Et puis, elles étaient en train de parler. Elles disaient, regarde celui-là. Mais dis donc. Mais c'est affreux. Mais t'as vu toutes les pustules. C'est affreux. On dirait. Puis l'autre a dit, on dirait du foie de veau. Et bien, moi, c'est quand qu'on mange. Et puis regarde celui-là, ils ne vont quand même pas le mettre à côté de nous, il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Mais si, arrête, il est en train de regarder. Non mais attends, il faut quand même être sérieuse, parce qu'ici quand même, il s'en passe des choses. Moi, Mme Janssen, il y a 2 ans, elle avait un rhume, ben, elle est venue 15 jours à Lourdes, elle est rentrée, elle était guérie. Hein. Et puis, M. Picot, il avait un cancer à l'utérus, c'est pas rien du tout ça, ben, il était guéri, hein. Il n'a plus. Vous voyez, ça fait rire parce que... Et pourtant, c'était quelque chose de grave. Alors voilà, c'était quelque chose de grave. Le rhume, c'est pas grave. Le cancer de l'utérus pour un homme, c'est grave. Donc, elle était guérie. Alors, dans l'idée des gens, quand c'est une grosse maladie, alors c'est terrible pour eux. Mais c'est normal parce qu'on apprend par-ci, par-là, partout que les gens meurent de ça. C'est affreux. Alors, la foi, il nous faut plus que du naturel, il nous faut du surnaturel. Eh bien, c'est là qu'on manque. C'est là qu'on a faux. On ne doit pas penser que c'est surnaturel. Pour Dieu, c'est naturel de faire un miracle. Et si c'est naturel pour notre Père, il faut que ça soit naturel pour nous aussi, il faut qu'on y croit, comme si c'était normal, comme si c'était normal, voilà, ben voilà, on peut... Vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est pas surnaturel, c'est dans la nature de Dieu. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que ça vous éclaire, ce que je vous dis là ? C'est les vampes. Les choses de l'esprit sont destinées à être notre milieu normal. C'est pourquoi il est écrit, ceux qui sont purs voient Dieu. Bon, on va terminer là ce soir. Dimanche, on va continuer. Dimanche, c'est la Pentecôte. C'est ça, hein? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Pas l'année passée, mais il y a quelques années en arrière. Le jour de la Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit est venu tabernacler dans l'homme pour la première fois. Habiter vraiment, remplir, baptiser, immerger dans le Saint-Esprit. L'homme habité par l'Esprit de Dieu, il devrait être accoutumé à la vue spirituelle de Dieu, c'est-à-dire à voir comme Dieu voit et non pas voir comme on l'a appris dans le monde. On entrera dans ces choses dimanche prochain. On se met debout et on prie le Seigneur. Jésus, je te remercie pour cet enseignement. Je te prie de nous aider. Tu nous as choisis, tu nous as élus dès la fondation du monde. Tu nous as préparé un chemin. Nous y sommes. Nous sommes en train d'avancer, de progresser. Nous sommes là et nous sommes heureux de pouvoir entendre ces choses qui fortifient notre foi. Merci Seigneur de nous apprendre que notre foi, c'est normal que nous ayons la foi et nous l'avons et l'amour et toutes ces choses. Et simplement, nous devons le bien placer, bien investir cette foi, investir cet amour dans les choses qui ont de la valeur, dans les choses saintes, dans les choses pures, les choses honorables, louables. Merci Seigneur Jésus de continuer à nous diriger. Nous comptons sur toi afin que nous puissions faire vraiment des progrès, marcher de progrès en progrès et ainsi te plaire chaque jour dans toutes nos actions. Merci Seigneur Jésus de bénir ces choses dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'ils y réfléchissent, qu'ils réécoutent ce message enregistré, qu'ils réfléchissent à toutes ces choses et qu'ils puissent prendre la mesure de leur connaissance vis-à-vis de ta parole qui est merveilleuse. Merci pour tous ces mystères qui tombent les uns après les autres. Et merci parce que nous pouvons comprendre de mieux en mieux ce que tu veux pour nous, ce que tu attends de nous. Et nous te bénissons ce soir parce que tu vas nous permettre de pouvoir faire encore des choses plus grandes. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Amen.